Chapitre 3. Le pouvoir du libre choix. La force de décider. Il nous apparaît maintenant évident que ne pas choisir, c'est choisir. À chaque instant du quotidien, l'athlète de la vie est avant tout un être humain confronté au besoin de prendre des décisions dans différentes situations. Le terrain dangereux sur lequel chacun risque de s'aventurer s'appelle habitude. Et, malheureusement, aucun programme d'entraînement sérieux n'a été proposé à ce jour pour optimiser nos choix qualitativement. Or, il faut bien garder à l'esprit l'évidence selon laquelle notre avenir se construit en fonction de nos choix présents. Souvent, comme nous avons pu le remarquer, nous ne faisons que réagir à une situation en utilisant, par réflexe inconscient, un comportement qui nous a apporté un certain réconfort par le passé, mais qui s'avère inapproprié face au contexte actuel. Ainsi, nous répétons obstinément un comportement erroné, établissant, jour après jour, une interminable chaîne marquée par le subir que nous appelons stress. Dans mon livre « Cœur à cœur », j'ai utilisé la métaphore du gâteau au chocolat pour mettre en lumière le mécanisme de l'habitude, avec ses conséquences éminemment néfastes dès lors qu'il n'est pas mis au service de notre bien-être prioritairement. Je la résume. Vous souffrez d'un excès de poids, mais vous aimez beaucoup le gâteau au chocolat et vous passez devant la vitrine alléchante d'une pâtisserie où trône précisément sous vos yeux ce pur délice. Vous éprouvez immédiatement le désir profond de vous procurer cette douceur qui vous pousse irrésistiblement à entrer à l'intérieur du magasin pour vous offrir cette délicatesse. Ensuite, vous sortez et vous vous délectez sans plus attendre, puis vous retournez à vos occupations comme si de rien n'était. Cet exemple fait ressortir les trois étapes de l'habitude. En premier lieu, l'apparition instantanée du désir à la seule vue du gâteau au chocolat. Un événement extérieur se produit et le mécanisme s'enclenche. Je subis en visualisant le plaisir de manger cette gâterie. En second lieu, ce plaisir anticipé me pousse à l'action, c'est-à-dire à l'acheter. Et finalement, je le déguste, ce qui renforce la mémoire précédente du plaisir que me procure le gâteau au chocolat, mais amplifie également mon sentiment de culpabilité. Voilà donc comment fonctionne ce mécanisme inconscient, et c'est exactement le même processus qui se met en œuvre pour toutes nos habitudes, qu'elles soient défavorables ou favorables à notre évolution. Pour quitter la voie du subir, l'athlète de la vie décide de se libérer de la peur du non-connu qui empêche le changement, l'évolution, le succès. Comme nous l'a rappelé Rainer Maria Rilke, le nouveau ne peut naître d'un regard dirigé par des mémoires anciennes. Le croire est subir la supercherie de cette fameuse peur. D'où l'importance que je devienne le plus conscient possible au cœur de ma vie quotidienne. L'athlète de la vie accepte avant tout de se trouver là où il est par suite de ses choix ou non-choix du passé. Il sait que ses pensées et ses sentiments ne sont pas là pour le diriger, mais bien pour le servir. S'il n'est pas satisfait de ses choix anciens et de sa situation actuelle, peu importe ce que la vie lui amène, il sait qu'il a la possibilité de choisir différemment ici, maintenant. Chaque fois qu'il apporte une réponse créative à une situation donnée, il devient plus fort. Là où la majorité des gens blâment avec amertume les circonstances, les autres ou encore eux-mêmes et leur pauvre valeur personnelle, il éprouve, lui, un grand plaisir à opérer des choix novateurs, à prendre des décisions audacieuses dont il assume par avance toutes les conséquences. Dans cet état d'esprit, il se donne la liberté de choisir qui il est, où il vit et ce qu'il va concrétiser. Il est libre de toute contrainte parce que c'est son choix. Être vrai, authentique, c'est ce qui lui permet de créer, de se créer. Il ne regarde pas en arrière pour regretter, voire condamner, ce qu'il a fait ou déplorer ce qu'il n'a pas fait. Il projette au contraire toute son attention vers l'avant, afin de découvrir des solutions. La responsabilité personnelle est devenue son territoire de prédilection, à tout jamais. Avec elle, il possède un réel pouvoir sur son avenir. Il sait, par exemple, qu'il a la possibilité de choisir de mettre un terme à toute relation, ce qui lui permet, paradoxalement, de s'y engager sans réserve. Il s'est entraîné, jour après jour, à dire non, ce qui lui a permis ensuite de dire un vrai oui à la vie et à ses multiples opportunités. L'athlète de la vie a découvert la puissance de son axe intérieur en s'accaparant, pas après pas, sa propre force au lieu de l'emprunter à quelqu'un d'autre. Il n'a pas oublié qu'à chaque moment de sa journée, la vraie solution se trouve là où rayonne sa conscience. Et être conscient signifie pour lui refuser à jamais toute polémique intérieure avec ces manipulateurs dangereux que sont le doute, la crainte, la jalousie, la haine, la panique, des sentiments qui occultent les opportunités de bonheur immédiat et ne servent en aucun cas son intérêt. Au contraire, ils le vampirisent. La vraie sécurité intérieure de l'athlète de la vie lui permet de remporter avec panache tous ses challenges. Sa force, ancrée au plus profond de lui-même, représente son invulnérabilité, son arme blanche, imparable lors de toute confrontation. Il profite de chaque instant de sa vie pour s'entraîner consciemment à se réapproprier la puissance du libre choix. Grâce à cet outil fabuleux, il construit son tremplin vers le succès jour après jour. Son but n'est pas, surtout, de défendre bec et ongles ses arguments pour avoir raison, mais au contraire, de toujours faire le choix supérieur qui le rapprochera de son objectif ultime, la maîtrise de soi. Avec elle, il maîtrise l'art martial permettant de dominer toute situation du quotidien sans jamais subir le jeu de la vie. Il rayonne en permanence cette confiance viscérale, vigilant, mais physiquement pleinement détendu et serein, comme un félin prêt à bondir dès que la fructueuse opportunité se présente. Pour mieux intégrer ce pouvoir personnel, je vous propose un exemple concret issu cette fois-ci du milieu du tennis. En compétition, l'athlète de la vie vibre de cette puissance et il met tout naturellement son adversaire en position de subir, c'est-à-dire qu'il le dissocie de sa spontanéité, de son ressenti, du vrai rythme du match en le faisant réfléchir. Or, quelqu'un qui réfléchit hésite, et celui qui hésite est fini. En effet, dès l'instant où il se dit « je frappe à droite ou à gauche, je croise ou je smash », il se déstabilise lui-même parce qu'il cherche à faire le geste idéal. Le résultat sera une erreur, la tentative vouée à l'échec, car dictée par la peur, par la crainte de manquer son coup. L'athlète de la vie, lui, ne se livre pas. Il ne délivre aucune solution à son adversaire. Il est, tout simplement, complètement présent à la situation, sûr de lui, enraciné dans sa confiance intérieure et donc ancré au cœur de sa spontanéité. Il ne cherche pas à vouloir impressionner son adversaire. Il est dans sa bulle. Il est entré dans la zone. Il est véritablement disponible à l'instant magique. Ce comportement de certitude crie à son adversaire « J'ai tout à gagner ». Un message que celui-ci traduit par « J'ai tout à perdre ». Combien de fois n'avons-nous pas remarqué un joueur faire le mauvais choix, sur une balle pourtant facile, en chutant malencontreusement, en croisant trop son revers, en attendant trop longtemps ou, au contraire, en se précipitant, gâchant ainsi une occasion toute faite. Cela est extrêmement fréquent et combien d'athlètes n'ont-ils pas ainsi perdu des points déterminants par manque de vigilance intérieure? Dommage qu'il se trouve si rarement un commentateur pour relever la présence exceptionnelle de l'adversaire qui a été capable d'inverser l'équation « subir-agir » en « agir-faire-subir ». Personnellement, je conçois avant tout l'agir comme étant un état interne de l'être, cette fameuse certitude choisie consciemment par l'athlète de la vie pour faire subir, donc amener l'adversaire à réagir. J'observe régulièrement, au plus haut niveau, et toute activité sportive confondue, une grande majorité d'athlètes dont les capacités physiques et techniques sont pourtant extraordinaires, fragilisées sur le plan mental et qui subissent leur propre adversité. Ils se laissent perturber par les conditions météorologiques, le brouhaha des supporters, les commentaires agressifs des médias, le charisme des adversaires ou les commentaires et les doutes, même non exprimés, de leur propre entraîneur. Sans oublier cette fameuse stupide blessure qui arrive, évidemment, au plus mauvais moment. Là encore, vous pouvez aisément transposer cet exemple dans le contexte qui vous est propre. Vous ne pouvez désapprendre vos travers personnels qu'en consacrant un temps précieux à vous observer vous-même dans les situations de votre quotidien. Nous verrons plus tard en détail l'importance de la physiologie et la manière de se tenir et de se déplacer, qui vont grandement influencer non seulement notre prise ou aussi notre non-prise de décision, mais également celle des gens qui nous entourent. Si nous n'agissons pas sur notre environnement, celui-ci prendra un malin plaisir à agir sur nous, que nous le voulions ou non. C'est le pragmatisme des lois universelles de la vie. En changeant nos propres choix et nos décisions, nous nous donnons les moyens de grandir grâce à l'appui de notre environnement. L'athlète de la vie n'a plus en face de lui des adversaires prêts à le jeter aux enfers, mais des alliés, des partenaires, des enseignants, placés sur son chemin pour lui donner l'occasion de révéler toutes ses capacités de maîtrise. C'est son choix. Voilà pourquoi il les respecte tout autant qu'il se respecte lui-même et qu'il les remercie de s'être trouvé sur son passage, lui permettant de se confronter vraiment à lui-même, à ses limites, à ses fameux démons intérieurs. Que ce soit au stade, au bureau ou sur scène, si nous perdons nos appuis, au propre comme au figuré, nous ne pouvons que subir notre existence. Quels que soient les événements qui se produisent autour de nous, que décidons-nous d'en faire? L'athlète de la vie sait que, tant que le stress verrouille ses sens, il reste sous l'emprise des fausses questions. À quoi sert-il de chercher une réponse saine et créative alors que nous gouvernent le doute et la confusion? La seule question qui possède le pouvoir de le libérer est de savoir comment éliminer son agitation intérieure, ce qui lui offre l'opportunité de vivre en grand son rêve grâce à un esprit à nouveau libre, limpide et clair. Toute la sagesse de la vraie réponse se situe toujours au plus profond de lui. Est-ce que je ressens une dilatation ou une contraction? Simple question qui contient déjà en elle-même la réponse au « que faire ». Nous ne le répéterons jamais assez, même si cela paraît simpliste. Rien de bon ne peut naître d'un état intérieur stressé. La seule noble pratique à laquelle l'athlète de la vie se consacre, pas à pas, est cette capacité à rester calme en toutes circonstances. Et s'il se surprend sous l'emprise de la crainte, il chasse ce mal-être le plus rapidement possible grâce à la puissance de son expiration et à la maîtrise de sa mécanique respiratoire. C'est tellement simple et évident que, dans quelque activité que ce soit, personne ne prend le temps de se consacrer à cet entraînement essentiel et millénaire. Pour cela, il est prépondérant de quitter un costume fort commode à porter, celui de la victime. J'illustrerai cet exemple par une expérience qui, à l'époque où j'étais gardien de but de football, m'a totalement conditionné, inconsciemment bien sûr, comme tant d'autres. Souvent, n'étant pas dans le rythme, comme nous l'avons vu avec l'exemple du tennis, je subissais, me retrouvais en déséquilibre intérieur, perdant mes appuis, au propre comme au figuré, et tombant en arrière, démontrant le désarroi que me causait le fait de subir l'événement. Fort de mon vécu, j'ai pu sans cesse constater que l'état d'esprit entre les poteaux était empoisonné par une croyance trompeuse. Nous l'avons démontré, tout est question de croyance. Et le plus terrible, le plus paralysant, le frein majeur que vit le gardien de but, c'est que tout footballeur, entraîneur et gardien associe inconsciemment à ce poste merveilleux de dernier rempart le statut de victime. C'est devenu l'image la plus trompeuse que subit ce joueur si différent des autres, et pas seulement parce qu'il porte un autre maillot. Lorsqu'un attaquant se rue seul sur lui, tout le monde voit le fauve qui va dévorer sa proie froidement. Le gardien de but n'a plus qu'à courir, désemparé, en direction de l'attaquant pour subir l'assaut final pour être exécuté. D'un côté, la croyance énergisante se renforce chez l'attaquant. De l'autre, la croyance frein, celle de la victime, fleurit chez le gardien de but. Mais que se passe-t-il lorsque ce dernier défenseur possède une force de caractère suffisante pour inverser le paradigme? J'apprécie beaucoup cet exemple du gardien de but, seul face au monde entier, car il m'a personnellement énormément aidé dans la poursuite de ma vie active pour me redresser et relever, avec la fougue et l'insouciance de l'enfance, n'importe quel défi. Que ce soit par suite du refus d'un projet professionnel, face au risque d'aborder dans la rue cette femme merveilleuse qui pourrait devenir la femme de ma vie, pour autant que je franchisse déjà les préliminaires de l'approche, de courtiser un client hors de ma portée. Par suite du défi de trouver une somme d'argent en 48 heures, de vendre mon produit à l'étranger avant d'être prophète en son pays, de donner un peu partout sur cette planète des cours de gymnastique très dansés après avoir été la risée de professionnels de la danse, de danser devant un immense public sans aucune prédisposition particulière, d'écrire un, puis plusieurs livres malgré un vécu scolaire peu glorieux, de s'étirer matin après matin, année après année, pour finalement réussir le grand écart, alors que certains entraîneurs, dans le passé, m'avaient catégoriquement classé comme non souple. Que ce soit de parler devant des auditoires immenses, alors que plus de 6 personnes autour de la table me mettaient dans un état de gêne, de croire aux capacités de mon corps lorsqu'il est soi-disant limité. Oui, toujours se redresser, comme vient sans cesse me le rappeler mon passé de gardien de but solitaire, et agir pour son rêve tout de suite ou jamais. Et comme me le répète inlassablement avec un grand sourire mon ami l'aventurier sud-africain Mike Horn, premier homme à réussir le tour du monde en solitaire, par terre et par mer, en suivant la ligne de l'équateur, latitude zéro, au cours d'un périple de 17 mois et 40 000 kilomètres. L'impossible ne représente que ce que l'homme n'a pas encore rendu possible. Quelle merveilleuse parole ! Mike, qui a signé d'autres grands exploits depuis, est, et à chaque instant, un véritable athlète de la vie. Songez à ses premiers regards face à face de deux boxeurs, lutteurs, judokas, avant le combat. Sans oublier la détermination qui rayonne des yeux d'un trapéziste avant qu'il se jette dans le vide sans filet, car tel est son choix en toute responsabilité. La force du regard est révélatrice de la puissance d'ancrage intérieur, de la capacité de confiance de tout athlète qui se diffuse autour de lui, à travers son corps, cette remarquable présence, cet attirant charisme. L'athlète de la vie décide donc en permanence de façonner, de construire, de charpenter en priorité son intériorité, n'oubliant jamais que tout commence à l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Il crée sa vie à tout instant, ne perdant plus un temps précieux à se demander s'il a le bon emploi, la bonne résidence ou encore le bon conjoint. Il a intégré au plus profond de lui-même que deux routes distinctes s'offrent à lui. Choisir d'être heureux, comblé, si les choses se déroulent comme il le souhaite, ou choisir d'être heureux, comblé, quels que soient les résultats créés par ses décisions. Et il sait que le second choix lui offre davantage d'opportunités de maîtriser son existence. L'athlète de la vie devient tout de suite son rêve, car il a découvert que la prise de décision s'effectue non pas avec des mots, mais avec des actes. La vie est magnifique, généreuse, elle est devenue pour lui un jeu merveilleux, car il l'a choisi. D'autres verront en elle une lutte obstinée, un combat perpétuel, des obligations, une prison. À chacun de choisir. L'essentiel de ce chapitre. 1. Je sais au plus profond de moi que ne pas choisir, c'est choisir. 2. J'ai parfaitement intégré le mécanisme inconscient de l'habitude. Un événement se déroule et le mécanisme s'enclenche. Je le subis. Le désir me pousse à agir. J'agis porté par mon habitude. Mon action renforce la mémoire précédente. 3. Mon but est de devenir toujours plus conscient dans mon quotidien afin de ne pas reproduire mes comportements erronés. La vraie solution réside toujours là où se focalise ma conscience. À moi de savoir la diriger sur ce que je veux plutôt que sur ce que je ne veux pas et surtout pas sur ce que les autres veulent pour moi. Je m'entraîne à faire le choix le plus élevé, ce qui optimisera ma maîtrise personnelle. Mes sentiments ne sont pas là pour me diriger aveuglément, mais bien pour me servir. La seule question qui peut me libérer du stress, c'est de savoir comment éliminer mon agitation intérieure pour retrouver tout naturellement un esprit clair et lucide. 4. J'accepte de me trouver là où je suis en raison de mes choix ou non-choix passé. Et si je ne suis pas satisfait de ma situation actuelle, j'ai l'opportunité de faire un choix différent ici et maintenant. Je ne regarde pas en arrière pour critiquer ce que j'ai fait ou pas, je trouve des solutions. Chaque fois que j'apporte une réponse créative, je deviens plus fort. En étant vrai avec moi-même, je me permets de créer. De me créer. Je me donne la liberté de choisir qui je suis, où je vis et ce que je vais concrétiser. 5. J'ose m'engager à fond dans mes relations car je sais que je peux à tout moment choisir d'y mettre un terme. Je suis libre. Voilà pourquoi je m'entraîne à avoir cette capacité à pouvoir dire non, ce qui me permet de dire oui à la vie sans aucune retenue, lorsque je m'investis avec les autres. 6. Ma prise de décision s'effectue avant tout par mes actions et non pas par mes mots. Je choisis d'être heureux, quels que soient les résultats créés par mes décisions, et pas seulement si les choses se déroulent comme je le souhaite. 7. J'ai intégré le fait que la force de mon regard dévoile la puissance de mon ancrage intérieur. Cette fameuse présence, ce charisme naturel, naît de la capacité de confiance que mon corps diffuse autour de moi.